OK, ça s'appelle le projet de loi 5. C'est le projet de loi, dans le fond, sur les maternelles 4 ans. C'est présenté par le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge. Et aujourd'hui, il a rappelé qu'il allait de l'avant avec son projet. Il n'allait pas reculer, même s'il y a beaucoup de controverses, même s'il y a beaucoup de doutes sur la faisabilité de ce projet-là. Joël Monzé est docteur en neurosciences et directeur de l'Institut de développement de l'enfant et de la famille. Il est en faveur de la maternelle 4 ans. Joël Monzé, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, d'un point de vue scolaire, est-ce que commencer la maternelle à 4 ans, est-ce que c'est une bonne idée?
Mais en fait, il faut savoir, mais vous l'entendez avec mon accent, que je suis pas né ici au Québec, je suis né en Belgique. Oui. Et en Belgique, on a 3 années de maternelle avant de rentrer à l'école primaire. Donc en fait, le problème n'est pas nécessairement de faire ou de ne pas faire une maternelle 4. Le problème va surtout être qu'est-ce qu'on fait. C'est certain que si maternelle 4, l'obligation, c'est de vraiment de commencer à faire du calcul ou de faire toute une série d'activités qui ne devraient normalement être réservées aux primaires, on va avoir une difficulté. Mais si c'est de donner un cadre à certains enfants pour pouvoir les accompagner alors qu'ils sont éventuellement déjà en difficulté, vous savez qu'il y a 28% des jeunes qui sont actuellement avec au moins une vulnérabilité en termes de développement dans leur sphère, dans leur projet, que c'est un prédicteur de risque de décrochage scolaire plus tard. Donc si ces jeunes-là, on peut éventuellement, pas pour tous, mais on peut les accompagner à partir de 4 ans, ça pourrait être une solution très intéressante en fait pour la suite des choses pour ces enfants-là.
OK, dites-moi, moi, les spécialistes à qui j'ai parlé m'ont toujours dit qu'intervenir le plus tôt possible, ça permet de prévenir tout plein de troubles d'apprentissage plus tard, OK?
Oui.
Ce qui est important, est-ce que c'est d'avoir des maternelles 4 ans, des classes physiques, ou c'est d'intervenir à 4 ans et on pourrait le faire ailleurs?
Mais en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est de remettre ça en perspective avec les dossiers de Lionel Carman, où il veut faire un dépistage précoce. C'est-à-dire que si on fait un dépistage précoce aux alentours de 4 ans, qu'on a identifié les enfants qui sont vulnérables et qu'on a une offre de service dans le système scolaire pour permettre à ces enfants-là de pouvoir commencer, on va avoir 8 années d'accompagnement qu'on va pouvoir faire pour justement éviter qu'au secondaire, ben, ils ne se prennent une porte en pleine figure. Donc c'est certain que si on met beaucoup de services, et ça ne veut pas dire que le CPE ne mériterait pas d'avoir cette aide-là, mais si on met par exemple des services aux alentours de 4 ans chez une au CPE, ben, il va y avoir un certain lag au moment où ils vont rentrer en fait à l'école maternelle, et donc ça va être peut-être plus difficile de pouvoir avoir un accompagnement suivi pour les élèves qui sont déjà en situation de vulnérabilité.
Vous prononcez sur, disons, le côté neuropsychologique, les troubles d'apprentissage, sur la faisabilité, parce qu'il y a beaucoup de doutes là-dessus, c'est pas votre expertise, là.
Mais disons que je donne des formations depuis des années, tant dans les CPE que dans les écoles, et y compris pour les enseignantes maternelles. Je pense qu'il y a des forces et des défis dans chacun des systèmes. Et ce qui est un peu dommage dans tout le débat qui existe autour des maternelles, et en fait, le gouvernement actuel, quand il était dans l'opposition, il sait d'ailleurs, M. Kerr a fait des sorties qui sont peut-être pas nécessairement, qui ne referait peut-être pas aujourd'hui. Mais toujours est-il que souvent, on va avoir une dispute d'institution et on oublie le principal, c'est l'enfant. Est-ce qu'on peut revenir auprès de l'enfant dans ses besoins? On sait qu'il y a de plus en plus, quand tantôt je parlais des facteurs de vulnérabilité, il y a 6 ans, c'était seulement 21% d'enfants qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, on est aux alentours de 28. Donc, en l'espace de 6 ans, il y a une augmentation de 7% d'enfants dans une situation de vulnérabilité. Donc, les CPE peuvent apporter une solution, mais ne sont pas la panacée, ne peuvent pas répondre à tous les besoins de ces enfants-là, ne serait-ce que parce que les éducatrices, avec tout le bagage qu'elles peuvent avoir, qui est extraordinaire, ben, peut-être que face à un enfant qui a ses vulnérabilités, n'ont peut-être pas nécessairement les ressources professionnelles pour pouvoir faire l'intervention, d'où la nécessité d'avoir des orthopédagogues, d'avoir des ergothérapeutes, d'avoir un certain nombre de professionnels attenants dans les écoles qui vont pouvoir faire un suivi longitudinal.
Joël Monzé, vous êtes docteur en neurosciences, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Vous êtes un spécialiste, dans le fond, du développement de l'enfant. Quand vous me parlez de vulnérabilité, 28% des enfants québécois qui ont une vulnérabilité, qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité?
En fait, actuellement, on mesure la vulnérabilité des enfants autour de 5 axes de leur développement. On va parler la santé et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif, le langage et les habiletés de communication générale. Okay. Donc, il y a des tests qui permettent d'identifier, en fait, quand un enfant va avoir des difficultés dans une de ces sphères de développement. Et le fameux 28%, ben on sait que les enfants en question, ils ont au moins une vulnérabilité dans un des cinq, dans une des cinq sphères dont je viens de parler. Mais pire, en fait, quand on regarde les garçons et les filles, on va remarquer que seulement une fille sur cinq a une difficulté, mais c'est un garçon sur deux qui a des difficultés.
Il y a vraiment...
Donc, à ce moment-là, l'objectif, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là?
Mais est-ce que... OK, et la science prouve qu'intervenir tôt, idéalement vers 4 ans, là, dans la scolarisation, ben ça aide beaucoup ces enfants vulnérables, c'est ça?
Oui.
Donc, sont moins susceptibles d'être un poids après, au primaire, au secondaire. Ils risquent d'avoir un meilleur parcours scolaire, c'est ça?
Disons, je pense que c'est ce que, en fait, c'est le vœu pieux. Est-ce qu'on va atteindre ces objectifs-là? Je ne sais pas, parce que vous savez, le développement d'un enfant, c'est multifactoriel.
Oui, oui.
On va avoir la pauvreté qui va apparaître. On va avoir... vous savez, vous pouvez avoir, par exemple, papa et maman qui ont relativement beaucoup d'argent, mais qui sont souvent en voyage parce que leur travail fait ça. Donc, vous allez avoir une pauvreté sociale parce que l'enfant va être gardé plutôt d'être avec papa et maman. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on est pauvre que nécessairement il y a plus... C'est un facteur, mais ce n'est pas le seul facteur. Vous allez avoir l'immigration qui va aussi amener un lot de gens qui ont besoin de s'adapter. Il y a le stress. Écoutez, on sait qu'actuellement, 47% des adultes se considèrent comme étant très stressés. Il y a une vingtaine d'années, on était seulement à 14%.
OK, je veux vous amener sur un autre sujet, Joël Monzé. Bon, vous êtes un spécialiste du développement de l'enfant. Il y a les troubles d'apprentissage, d'une part, sur lesquels vous vous penchez, mais j'imagine que vous vous penchez aussi beaucoup sur la question des écrans. Nos enfants sont scotchés à toutes sortes d'écrans ces jours-ci, les adolescents aussi. Et hier, le ministre Lionel Carman a annoncé un forum pour réfléchir à la cyberdépendance. Vous, là, quand vous voyez un enfant qui est sur un écran, qu'est-ce qui vous inquiète le plus?
En fait, on se rend pas toujours compte de l'impact que ça va avoir sur son cerveau. Mais plus les études avancent, surtout quand ce sont des études indépendantes, donc le financement n'est pas lié à une entreprise qui pourrait avoir des intérêts dans le développement de leur projet, c'est qu'on se rend compte en fait de l'effet négatif. Il faut savoir que, par exemple, quand vous allez manger un morceau de chocolat, si vous aimez le chocolat, votre cerveau va développer, va libérer beaucoup de dopamine dans un endroit bien précis de votre cerveau, qui va vous encourager à prendre un deuxième morceau de chocolat, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et en fait, chaque morceau de chocolat, vous allez avoir une réponse de dopamine de moins en moins forte, ce qui fait en sorte que vous allez vouloir en manger de plus en plus. Mais le jeu vidéo fait exactement la même chose. Il donne l'impression qu'on est heureux en jouant avec le jeu vidéo, et donc on va aller rechercher cette simulation-là, on va aller rechercher cette simulation-là de plus en plus, et comme ça s'émousse, si vous voulez, parce que c'est de moins en moins efficace, ça va aller de plus en plus, donc ça va être plus d'heures, plus violent, plus stimulant, et c'est là que ça va fragiliser des enfants qui ont peut-être déjà, bon, tout le monde ne va pas avoir le même genre de conséquences, mais vous avez des jeunes qui ont leur vie actuellement qui est fortement bousculée par l'usage des écrans intempestifs.
Votre meilleur conseil aux parents qui s'inquiètent du temps que leurs enfants, que leurs adolescents passent sur des écrans, jeux vidéo, etc., c'est quoi?
Mais essayez de comprendre que souvent l'enfant va aller vers ça parce qu'il manque peut-être de relations avec les gens qui sont autour d'eux. Et c'est vrai que plus de jeunes vont être devant l'écran et plus ça va les pousser à vouloir justement aller sur les écrans pour être en contact avec les copains. Mais quand on peut donner en fait des ressources aux enfants parce qu'on va jouer avec lui, parce qu'on lui offre des occasions d'aller se promener, d'aller faire du vélo, d'aller nager dans un lac, d'aller faire du ski, donc faire des activités familiales, ben, l'écran est de moins en moins important. Donc il faut vraiment travailler sur l'aspect relationnel de l'enfant. Il ne faut pas avoir peur non plus des crises de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'au moment où on lui arrête l'écran, que ce soit la télévision ou un jeu vidéo ou le chatting, c'est certain qu'il y a un manque qui va se placer, mais au bout de 2-3 jours, vous allez voir, l'enfant va s'apaiser. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Vous savez, il y a des études qui ont montré que 9 minutes de télévision le matin suffisaient pour perturber la concentration d'un enfant durant la journée. Donc quand on a un enfant qui est peut-être déjà qui a des difficultés à se concentrer à l'école, à répondre aux consignes des enseignants, à se plier à l'ensemble des réalités d'une vie sociale, mais en diminuant les écrans, voire éventuellement en les stoppant le plus souvent possible, on va retrouver un jeune enfant qui va être beaucoup plus sociable, beaucoup plus disponible pour les relations et beaucoup plus capable de pouvoir arriver à s'intéresser à des choses qui sont de la matière scolaire, du maths, français et autres.
Très intéressant. Joël Monzé, merci beaucoup. Joël Monzé, docteur en neurosciences et directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Et vous l'avez entendu, il a dit qu'il ne faut pas avoir peur des crises de l'enfant. Comme disait ma mère, c'est plus facile de dire oui à un enfant que de dire non.